Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes.
Le parquet, lui, a conclu à un cas de légitime défense de la part des policiers.
Que les deux policiers qui étaient mis en cause dans la mort des deux jeunes, Ziyad et Bouna, eh bien, sont blanchis.
Suite à la multiplication des blessures graves liées aux tirs de flashball, les lanceurs de balles de défense dans les récentes manifestations, le ministère de l'Intérieur a remis au goût du jour une vieille antienne de contrôle de l'action de la police, le port de caméras piétons sur les agents pour les futures manifestations. Mais outre ce contrôle qui se veut en amont des violences policières, ressurgit également le procès en impunité. Les policiers qui se rendent coupables d'agressions sur des manifestants ne seraient en fait jamais poursuivis et bénéficieraient d'un régime de clémence de la part de l'autorité judiciaire. Bonjour Jacques de Maillard.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, directeur adjoint du CESDIP, qui est le centre de recherche sociologique sur les droits et les institutions pénales. Est-ce que les policiers sont au-dessus des lois ?
Non, dans un état de droit, dans les pays occidentaux, en France plus spécifiquement, les policiers sont soumis à des règles de droit qui encadrent leur action, en interne, ils sont censés rendre compte à leur autorité hiérarchique, et en externe, ils sont contrôlés par les institutions pénales. On a des policiers qui sont sanctionnés administrativement par leur autorité hiérarchique, judiciairement, plus rarement, mais régulièrement. Cela dit, ces enquêtes sont longues, compliqué. Et donc, de ce point de vue, le contrôle est réel, mais il est incomplet.
D'où vient ce sentiment que l'on voit ressurgir très régulièrement d'impunité de la police ?
L'impunité, elle n'est pas réelle. On voit que les policiers, ils sont le fait d'enquête par l'inspection générale, soit de la police nationale, l'IGPN, soit de la gendarmerie nationale. Ils peuvent être aussi objet d'enquête parce que saisis par des citoyens, par le défenseur des droits, qui a un pôle déontologie de la sécurité. Donc il y a des enquêtes. Ces enquêtes, elles sont difficiles et elles expliquent souvent le décalage.
Pourquoi difficile ?
Alors je cite juste un chiffre qui va le montrer. L'ACAT, qui est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, avait conduit une enquête en 2015. Ce que montrait cette enquête, c'est que sur 89 faits de violence allégués de la part de policiers, où des plaintes avaient été déposées, seulement 7 avaient donné lieu à une condamnation. Donc un décalage énorme. Alors, donc l'impunité n'est pas totale, mais on se rend compte très régulièrement qu'entre les plaintes déposées et les sanctions prises, il y a un décalage très important. Comment l'expliquer ? On peut l'expliquer d'abord par la difficulté à déposer plainte. Les services de police ne sont pas très enclins à prendre des plaintes contre des policiers. On peut l'expliquer ensuite par le fait que souvent ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers. Alors ces policiers, ils ont pas très bonne réputation dans les services de police, on connaît
IGPN,
l'expression
oui.
Bœuf-carotte. Hein. Bon. Mais en même temps, dans tous les pays occidentaux, cette question-là de l'enquête sur des policiers par des policiers a posé question. Troisième point, il y a aussi des faits qui sont difficiles à établir parfois. Quand vous n'avez pas de témoins, ou quand les témoins sont des proches de la victime, quand les témoins sont principalement des policiers, et donc solidaires de leurs collègues. Donc les faits sont parfois difficiles à établir. Ce qui est souvent déterminant dans une affaire qui aboutit, c'est quand vous avez des images vidéo qui peuvent venir appuyer les dires de la supposée victime, quand vous avez aussi un certificat médical qui appuie aussi les dires de la victime. Donc les enquêtes sont effectivement difficiles, compliquées, longues, et expliquent ce décalage entre un nombre important de manquements signalés et les sanctions prises.
Que disent aujourd'hui les statistiques judiciaires à ce propos, effectivement ? Est-ce qu'elles sont suffisamment communiquées ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le nombre de policiers qui sont condamnés, pas uniquement pour des faits de violence d'ailleurs, pour d'autres types de manquements à leur profession ?
On a assez peu de données. On a, je le disais tout à l'heure, deux types de sanctions. Des sanctions administratives, des sanctions judiciaires. Sur les sanctions judiciaires, on a des affaires qui, parfois, spectaculairement, sont relayées par les médias. On connaît l'affaire Néret.
Néret, ce grand flic qui a été condamné pour corruption à 4 ans de prison.
Donc, on connaît un certain nombre d'affaires. Du point de vue des sanctions administratives, à noter le progrès, c'est que maintenant, l'inspection générale de la police nationale publie un rapport annuel où elle détaille l'inspection, le nombre de sanctions qui ont été proposées par l'inspection générale de la police nationale. Je donne un exemple. Vous avez aujourd'hui, ce qui est un grand progrès, une plateforme de signalement. Si vous estimez avoir été victime d'un mauvais traitement par la police, vous pouvez le signaler sur une plateforme mise en place par l'inspection générale de la police nationale. Et vous avez beaucoup d'autres manières, par téléphone, etc. Sur l'année 2017, vous avez eu 4800 signalements. 8% de ces cas ont fait l'objet d'enquêtes et de sanctions. 58 policiers ont fait l'objet de manquements et 32 parmi eux ont fait l'objet d'un rappel à la règle, voilà, la déontologie professionnelle, et 26 ont été sanctionnés. Sur 4800
signalements.
Donc 92% d'entre eux ne font pas l'objet d'enquête par les services de l'inspection générale de la police nationale. Tout ça pour vous dire que on commence à avoir des données, mais ces données sont encore trop rares parce que, par exemple, on ne sait pas sur quel type d'affaires l'inspection générale de la police nationale a enquêté. Est-ce que c'était sur des faits de violence ou pas? Alors, je souligne un dernier point, c'est que un collègue, Cédric Moreau de Bélin, a travaillé sur les enquêtes conduites par l'inspection générale de la police nationale dans les années 90. Et ce qu'il montrait très bien, c'était que les faits de violence volontaires par des policiers, les faits de violence par des policiers, étaient ceux qui étaient généralement les moins sanctionnés. C'était à peu près 5% des sanctions de l'IGPN. Pourquoi? D'abord parce que, comme je l'ai dit, les faits sont très difficilement identifiable, c'est difficile d'enquêter. Et deuxièmement, parce que la police nationale, comme la gendarmerie, comme beaucoup d'administrations, est d'abord et avant tout soucieuse du respect de ses propres règles. Donc on sanctionnera plus facilement la corruption, on sanctionnera plus facilement l'utilisation frauduleuse d'une carte de carburant, plutôt que des violences commises à l'égard de la clientèle, à l'égard des usagers.
Est-il vrai qu'un policier peut échapper à la sanction à partir du moment où il déclare pénalement avoir obéi à un ordre?
Ça, c'est dans le cadre très spécifique des procès suite à utilisation de la force lors d'une manifestation. Et effectivement, alors on rentre dans la technique du droit, c'est-à-dire que quand la poursuite est pénale et qu'on arrive à identifier le policier, ce qui est pas du tout évident, le policier peut dire que il a utilisé le lanceur de balles de défense en obéissant à un ordre. Donc, ce qui conduit en termes de stratégie judiciaire, les avocats à plus passer par la voie administrative plutôt que par la voie pénale. Quel est l'intérêt de la voie administrative de ce point de vue-là? C'est de pas considérer que le problème est uniquement individuel, le policier qui a utilisé le nom, mais plus collectif, c'est-à-dire que l'ordre lui-même a posé problème.
Je le disais en tout début de présentation, le ministère de l'Intérieur a remis au goût du jour les caméras piétons. Ces caméras, les études montrent que quand elles sont installées, elles diminuent les violences des deux côtés, du côté policier, mais aussi du côté de la violence contre les policiers. Pourquoi est-ce que la police est si réticente à la généralisation de ces caméras, Jacques de Maillard?
Les expérimentations qui ont été conduites dans les pays anglo-saxons soulignent ces effets bénéfiques des caméras piétons. Bon. Alors la France commence à s'y mettre. Bon, peut-être le premier point, c'est que il y a un coût qui l'accompagne. Effectivement, ça se fait très progressivement et sous la pression de l'opinion publique suite à des crises comme on est en train d'en vivre une. Le deuxième point, c'est que ces caméras sont quand même toujours des prises de vue partiales. Et un certain nombre d'expérimentations aux États-Unis l'ont bien montré. Quand on a une caméra portée, en fait, on n'a pas la totalité de la situation parce que une caméra n'est qu'une vision du réel et en aucun cas une vision, je dirais, synoptique de tout ce qui s'est déroulé. Troisième point, ça révèle quand même une réticence de la part des organisations professionnelles, c'est que ces caméras portées pourraient n'être déclenchées que à la demande du policier lui-même. Enfin, c'est auto-déclenché. Ce qui pose bien évidemment une question sur l'utilité de ces caméras piétons.
Merci beaucoup Jacques de Maillard. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quantin et directeur adjoint du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.